Voilà, merci David pour cette introduction. Dans ce que je vais vous présenter, il y aura probablement pour vous énormément de rappels, peu de choses très nouvelles, pour ceux qui sont des habitués des églises et de l'enseignement classique qui est donné. Ce sera donc peut-être des rappels assez basiques. L'écriture peut être vue un peu de loin, comme ça, comme une grande inclusion entre les premières pages de la Genèse, l'avant du péché, et le dernier chapitre de l'Apocalypse, l'après du péché. Ces deux conditions sont assez difficilement pensables, en vrai dire, pour nous, et les textes qui en parlent le font d'ailleurs de manière très imagée, remplie de symboles. Et au centre, il y a Christ, sa victoire sur le péché, cette victoire, cette croix qui est le cœur même de la mission de Jésus. Et néanmoins, nous savons que la manifestation présente de cette victoire dans la vie présente n'est qu'un avant-goût, un petit avant-goût tendu vers l'espérance et vers l'espérance de l'éradication du péché. Ce que j'aimerais souligner, c'est que nous touchons là un sujet qui vient au cœur de nos existences humaines et chrétiennes. Le croyant régénéré n'est pas indemne du péché, et nous ne pouvons pas en parler comme si on pouvait simplement s'en extraire. Parler du péché nécessite bien sûr de prendre un certain recul, et c'est l'Écriture, inspirée et illuminée par l'Esprit, qui nous aide dans cet effort de lucidité sur la question. L'objectif derrière est de mieux le débusquer pour pouvoir le confesser et le combattre. C'est ça, au cœur du message chrétien. Et donc, nous en verrons rapidement le caractère historique, qui est une particularité de la conception biblique, la question de l'extension et de la prolifération du péché, et enfin le discernement et la révélation nécessaires sur ce qu'est le péché et sur son impact. Alors, sur le caractère historique du péché, ce sous-titre un peu provocateur, hein, le péché non originel, a simplement pour but de marquer deux éléments importants concernant le rapport entre le péché et l'humanité. Quand je dis le péché n'est pas originel, il n'est pas originel au sens où, s'il appartient bien à l'histoire du premier homme, il n'appartient pas à l'origine du premier homme créé par Dieu sans péché. Genèse 1 caractérise la création de bonne, et même très bonne, en ce qui concerne l'homme. Donc, le péché constitue d'emblée, fondamentalement, quelque chose comme une anomalie, une corruption qui relève d'une irruption. Il procède d'un événement aux conséquences tragiquement déterminantes pour l'existence humaine. Cela veut donc dire qu'il n'est pas à confondre avec la finitude qui est propre au caractère créé, même si cette finitude prend un caractère parfois tragique, effectivement générateur d'angoisse, et cela à cause du péché. Le péché connaît donc un commencement à l'aube de l'histoire humaine, mais son origine est, on peut dire son origine à proprement parler, est en fait mystérieuse et il faut le préciser, en partie extérieure à l'humanité. Il relève de quelque chose qui est sans analogue, quelque chose de non créé, sans origine, sans réelle substance et que l'on rassemble sous le terme du mal. Ce mal agit, nous raconte Genèse 3, par le personnage de serpent. Ce serpent qui introduit le doute dans l'homme et laisse jouer le désir. Et le mal, dans sa réalité, n'existe que par le bien qu'il attaque, abîme et détruit. En ce sens, il n'a pas d'essence, il n'a pas d'existence autonome, il est purement parasitaire. Il souille, il pollue. Et donc, de nouveau, une précision à ce niveau-là, sans pouvoir développer ce thème, on ne confondra pas le mal avec le négatif, ou avec le néant. Et je me contenterai ici de l'affirmation aporétique d'un mal qui est réellement mauvais, ce n'est pas le corollaire nécessaire du bien, un mal présent dans le monde, bien que non créé par Dieu, qui y est étranger, un mal mystérieusement permis et souverainement contrôlé par Dieu. Pour autant, le péché reste le fait de l'homme qui transgresse l'interdit donné par Dieu. Et cet aspect transgressif, personnel et relationnel est essentiel à la compréhension biblique du péché. Le pécheur est toujours un péché de l'homme, individuellement, parfois collectivement, un péché contre quelque chose ou quelqu'un, mais toujours, que ce soit de manière directe ou indirecte, contre Dieu en dernier ressort. Et c'est en ce sens que le péché est véritablement, et toujours, affront, révolte contre Dieu. Et c'est la notion d'alliance qui permet de saisir au mieux cet aspect des données bibliques. L'ordre du monde établi par Dieu a une dimension personnelle et relationnelle. Dieu n'est pas une cause mondaine et impersonnelle, il est une personne agissante. C'est le monde créé, c'est le monde de Dieu, où le mal, le malin, ne peut être là qu'à titre d'usurpateur. Et la nature particulière de l'homme lui donne cette capacité, par sa volonté, de transgresser les règles de cet ordre du monde, de cet ordre de Dieu, en s'exposant aux conséquences. Alors attention, quand je dis, je parle de volonté, cette volonté n'a pas forcément pour objet intentionnel la transgression, ou n'a pas forcément pour objet intentionnel un objet mauvais, ou même une intention consciemment mauvaise. Simplement, le péché est présenté originellement comme un acte initial de transgression. C'est le terme qui sera utilisé par l'apôtre Paul aux Romains. Et pour ce qui concerne justement l'intention derrière le péché d'Adam, l'intention qui habite Adam, on en est réduit à la spéculation. Certains ont parlé de la concupiscence, d'autres d'un refus de la finitude, d'autres de l'orgueil. Le doute que distille serpent pourrait orienter peut-être vers une perte de confiance en la bienveillance de Dieu, en la sûreté de sa parole, ce qui le rapprocherait plutôt d'un manque de foi. Le terme anglais dit bien « faithlessness ». Ce manque de foi attisé par le désir. Mais la difficulté, c'est que dans ce cas, quelque part, le péché précéderait encore l'acte pécheur dans l'intention et dans le cœur d'un homme pourtant créé bon. Et donc nous en sommes réduits à nous contenter de cette idée, non pas d'une origine insaisissable, mais d'un commencement du péché à travers cet acte de transgression, alors que précisément cette origine reste, et cette origine même en l'homme, reste inaccessible, insaisissable. La notion de transgression me paraît importante dans le concept biblique de péché, précisément parce qu'elle distingue le péché de la fragilité qui caractérise l'humain, dont Dieu sait qu'il n'est que poussière, qu'il n'est que chair, comme le dit le psaume 78. Le péché exploite et expose dramatiquement cette fragilité, mais se constitue d'abord par rapport, et plutôt contre, un ordre établi par Dieu. Et l'importance accordée par la tradition théologique occidentale, protestante en particulier, à la loi divine doit être comprise dans le cadre de cette structure créationnelle qui se dit au mieux en termes d'alliance. La structure d'alliance, de relation entre Dieu et Adam pourrait être discerné comme manifestation de quelque chose comme une loi fondamentale, une structure anthropologique, même dans une certaine mesure durable, selon une interprétation possible de Romains 2, avec une loi inscrite dans les cœurs et dans le cœur même des païens. On pourrait d'ailleurs retrouver l'idée d'un reste de cette structure dans les religions païennes. Là, je pense à Galates au chapitre 4, où les stoïcheia, les éléments du monde dont parle Paul, peuvent avoir ce rôle de pédagogue, de tuteur, pour conduire à Jésus-Christ. L'humanité, donc, s'inscrit de façon immémoriale dans un rapport d'alliance, un rapport d'alliance fait de grâce et de redevabilité à Dieu. Dieu est bibliquement toujours d'abord celui qui donne sans condition, il donne la vie, il donne les bienfaits, et qui constitue l'homme comme étant originellement en relation avec lui, se recevant de lui et redevable à lui. L'alliance à ce trait d'être une alliance relationnelle, d'avoir quelque chose de relationnel, c'est une relation médiée en partie au moins par quelque chose qui est de l'ordre de la règle, de la loi. Et donc la dimension juridique du texte biblique n'est pas une dimension autonome, c'est l'expression dans le cadre d'une relation d'alliance, hein, au sens large. C'est une expression des dimensions relationnelles, personnelles et, pourrait-on dire, même ontologiques de l'humanité. Et donc, en ce sens-là, le péché est bien non-conformité à la volonté de Dieu, cette volonté qu'exprime de façon particulièrement pointue, peut-être, la loi. Le récit de la chute le montre clairement. Le péché n'est pas un acte isolé, autonome. C'est un acte agissant. Il a un pouvoir effectif de détermination sur l'être humain, sur son existence, dans toutes ses dimensions. En Genèse 3, on voit que le péché fait accéder, le fruit défendu en tout cas, fait accéder l'humain effectivement à une connaissance ou à une faculté qu'il n'est pas capable d'assumer. Ses yeux s'ouvrent bien, mais sur quelque chose qu'il n'attendait pas et qui le déconcerte. C'est sa nudité. Aspirant à l'élévation vers plus de ressemblance au divin, il se retrouve confronté à son caractère. On ne peut plus créer corporel, et il en éprouve une honte. La honte éprouve bien quelque chose qui exprime une insuffisance dans ce que l'on est. Il provoque également une torsion des relations entre l'homme et la femme, comme entre l'homme et Dieu. Il génère une peur même de Dieu, ainsi qu'une culpabilité dont chacun essaye de se dédouaner. Et, il faut le dire dans la relation dans le sens inverse, le péché suscite aussi des actes ou des paroles, actes de jugement de la part de Dieu. Quant aux relations, elles seront marquées par la domination entre l'homme et la femme, et non pas non plus le vis-à-vis dans le partenariat initial. Quant à la vie corporelle, elle sera marquée par la douleur, la peine, et destinée à la mort. Quant aux conditions d'existence, l'homme se retrouve jeté dans le monde, un monde hostile et source de peine. Et quant à la terre elle-même, la création, elle est également l'objet d'une malédiction soumise, comme l'interprétera Paul en Romains 8, soumise à la vanité. Cependant, Dieu répond aussi au péché par des actes-paroles de grâce. Dieu offre une promesse à la femme, hein, la victoire de sa descendance sur serpent, sur le mal, dans ce qu'on a coutume de présenter comme le proto-évangile de la Genèse, hein, Genèse 3,16. Dieu, de même, de manière très protectrice, couvre la nudité et la honte du couple humain de façon plus adéquate. Autrement dit, l'homme est bien livré aux conséquences de ce péché, mais il n'est pas abandonné à sa liberté maintenant dévoyée. Alors, on peut voir dans ces conséquences du péché, l'aspect du jugement en particulier, on peut voir deux aspects qui ne devraient pas être opposés. Le péché porte son propre fruit. L'homme moissonne ce qu'il sème. Ça appartient à l'ordre du mal que le mal suscite en retour au final du mal. Le mal suscite du mal, certes retenu pour un temps au moins par la grâce de Dieu. Mais ce rapport entre le péché et ses funestes conséquences relève non seulement d'une causalité qui serait autonome, purement mondaine, mais de la volonté de Dieu. Elle s'inscrit dans, justement, l'ordre, la structure qu'implique la notion d'alliance. Et la récurrence du thème biblique de la rétribution, de la colère de Dieu, en est un indice. Et je pense que c'est important de vraiment le noter, hein, le moment rétributif fait partie de la manière dont Dieu traite le péché, et il est essentiel de le comprendre et de l'accueillir pour pouvoir comprendre la croix comme expiation pour le péché tel que l'Évangile nous le présente. Et il me semble qu'un certain nombre de théologiens aujourd'hui semblent revenir à plus de considération pour ce thème difficile et souvent décrié de la rétribution. Abordons maintenant la prolifération, l'extension du péché. Le texte biblique expose de bien des manières la manifestation variée du péché, mais aussi ses conséquences et sa dynamique propre. L'Écriture nous montre un homme qui n'est pas abandonné de Dieu, je l'ai dit, mais qui n'est plus en relation de communion avec lui. La mort physique est le signe et le sceau d'une mort spirituelle, plus profonde encore, une séparation de la relation intime et vivifiante avec Dieu. Je renvoie à Éphésiens 2. Le rétablissement de cette relation exige donc une initiative divine qui sera développée en théologie chrétienne sous le vocable de la nouvelle naissance. La condition habituelle d'existence de l'homme est à présent celle d'une existence amoindrie, déchue, séparée de Dieu, vouée, dans ce qu'elle a de meilleur, à chercher Dieu à tâtons, comme cet inconnu. Je renvoie à la prédication de Paul en acte 17. Mais l'Écriture fait aussi nettement apparaître très rapidement, dès les premières pages, le caractère prolifique du péché. À la désobéissance d'Adam succède le meurtre d'Abel, et le mal prolifère à une telle vitesse qu'il finit par exaspérer Dieu, qui envisage l'extermination de l'homme, en Genèse 6. Il suscite le déluge à nouveau dans un acte de jugement. Le péché présente ce caractère viral. Dieu a même livré l'homme pécheur au péché, selon Romains 1. Le péché est habité par une logique, en partie chaotique, une logique auto-entretenue. Le péché inscrit dans le cœur de l'homme, le siège de sa personnalité, induit bien des péchés et se répand dans l'humanité par réaction au mal, par réaction au péché, ou par imitation. Et l'Écriture utilise souvent l'image de la maladie, en Ésaïe, mais aussi Jésus dans l'Évangile. Cette maladie qui illustre bien cette réalité, la maladie prolifère, mais détruit. Et c'est sa logique même, celle du cancer, c'est celle de s'étendre pour finalement détruire. Et donc, le péché associe de manière remarquable une logique méthodique avec un caractère chaotique. La transmission de ce péché doit néanmoins être qualifiée. L'homme naît pécheur, et la tradition réformée souligne bien qu'il n'est pas pécheur parce qu'il pêche, mais que l'homme pêche parce qu'il est pécheur. Dès sa conception, nous dit le psaume 51. Alors, ce n'est pas que la transmission du péché soit forcément biologique et inscrite dans les gènes, mais elle s'inscrit effectivement dans un processus complexe de génération. Et si chaque personne est jugée responsable de ses propres péchés, le contexte de péché appartient bien à la transmission générationnelle. L'homme, l'humain, advenant avec cette orientation contre Dieu. L'homme porte l'histoire dont il est le fruit, qui lui donne son contexte de développement, et il ne peut simplement s'en extraire. Tous les récits des patriarches ou l'histoire de la famille de David montrent à l'envi la reproduction de schémas dysfonctionnels. Le péché se révèle donc comme une maladie, mais aussi comme une condition d'existence marquée par cette puissance de chaos et, en ce qui concerne l'homme, on pourrait dire une puissance déshumanisante. Elle touche l'homme dans sa structure profonde, en particulier sa structure relationnelle. Et là, je vais suivre l'ordre de ce que j'ai montré en Genèse 3. L'homme est sujet à la honte. Et il me semble important, pour parler bibliquement du concept de péché, il faut rendre compte de tous ces textes qui parlent de la honte que suscite le péché. Le couple honneur-déshonneur, honte-gloire, ces deux couples de termes sont extrêmement présents, quand on y regarde de près, lorsqu'il est question de péché. Alors la version, on pourrait dire la version positive de la honte, ça pourrait être la pudeur, c'est-à-dire la bonne distance entre deux personnes, le rapport approprié de proximité et de distance. Il respecte l'intégrité de l'autre. Le contraire de la honte serait l'honneur, la gloire, l'honneur qui reconnaît la valeur de la personne, et la gloire qui est le rayonnement qui émane de la personne. Mais le péché est désintégrateur et suscite non la pudeur, mais la honte, le déshonneur, le déclassement. Et ce n'est pas simplement un sentiment intérieur, un sentiment de honte, mais cette honte a une dimension plus publique, plus extérieure aussi. Je note d'ailleurs aujourd'hui le grand retour en force de la honte dans une culture post-chrétienne qui pourtant peine avec l'idée de rétribution. Le hashtag « balance ton porc » livre le fautif à la honte publique. Ce déshonneur est source d'exclusion sociale, Weinstein va bien quand même, mais d'isolement. Et cette honte fait aussi partie du jugement que prononce Dieu à l'occasion contre Israël, en Ésaïe, Ézéchiel, ou contre les nations. Le péché touche, si c'était possible, l'honneur de Dieu et expose en retour l'homme à la honte. Et le psalmiste désire garder les commandements de Dieu pour ne pas être honteux, confus devant Dieu. Dieu agit également dans l'histoire du salut à cause de son nom, à cause de son honneur. Une honte qui touche, il faut le souligner, très injustement les victimes du péché d'un autre. Hein, le déshonneur d'une femme violée, rejetée. Nous avons l'exemple évidemment de Tamar dans la Bible qui est particulièrement poignant. Et quelque part, le pire qui puisse arriver en matière de honte, comme l'évoque l'apôtre Paul, toujours dans Romains 1, c'est lorsque, dans la prolifération du péché, la honte s'éteint. Quand les hommes se déshonorent dans leur péché sans plus s'en soucier et en éprouver de honte. Alors c'est un thème qui me paraît aujourd'hui peu développé en théologie systématique dans ma discipline, plutôt en missiologie ou en théologie pratique, alors qu'il me semble qu'il y a un écho important dans la manière dont Dieu, justement, restaure le pécheur par l'accueil, l'adoption filiale, l'appartenance à la famille de Dieu, avec en écho du côté éthique, les dimensions d'hospitalité et le refus de l'acception de personne. L'homme est livré à la peur. Hein, il est sujet à la crainte et à la peur. Sa version positive, c'est dans la Bible très clairement la crainte de Dieu, le respect, la révérence. Hein. Son contraire, on pourrait le voir comme étant l'assurance, en grec, hein, la paresia que nous avons de nous approcher de Dieu par l'œuvre de Christ. Mais face à sa propre faute, c'est la peur de Dieu qui habite Adam et Ève, et avec raison. Et l'existence humaine est marquée ensuite par la peur que suscite l'hostilité du monde, l'hostilité de l'autre, du frère devenu rival, l'hostilité du plus fort. L'homme a peur de la souffrance, de la mort implacable, comme d'une menace permanente. Et la peur finit peut-être par ne plus avoir d'objet défini dans ce qui serait quelque chose comme l'angoisse, une crainte auto-entretenue de dangers insaisissables, fantasmatiques et pourtant bien handicapants. Et la prolifération du péché fait craindre non seulement Dieu et la mort, mais aussi les forces personnelles ou quasi-personnelles et insaisissables qui affligent l'homme. Les forces spirituelles, hein, je parlais de serpent, connu ensuite sous le nom de Satan et diable. Paul, dans son épître, dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, évoque un monde habité par des puissances que l'homme croit devoir ménager. Et Paul présente en contraste le Christ comme ce vainqueur par sa mort celui et sa résurrection, comme celui qui a vaincu la puissance d'accusation de Satan et qui domine, qui est seigneur sur le monde spirituel, un monde sous l'autorité de Christ. Et de nouveau, il y a un stade ultime dans le péché, qui est la désensibilisation totale, quand l'homme n'a plus peur de rien, qu'il ose tout en face des hommes et en face de Dieu. On aurait là le personnage biblique du moqueur dans les Proverbes, par exemple, ou dans le Nouveau Testament, l'impie par excellence, l'homme de l'iniquité qui déploie sa puissance maléfique sans peur de Dieu. Enfin, et en fait, fondamentalement, il faudrait dire premièrement, l'homme est coupable du péché. Alors, ce serait difficile de parler d'une version positive de la culpabilité, mais on peut voir son absence dans ce que certains textes désignent comme la bonne conscience, non pas purement subjectivement, hein, mais comme la conformité à la volonté de Dieu, au sens de 1 Pierre 3,16, par exemple. Et l'inverse, le contraire, pourrait-on dire, je lance ça un peu comme ça, si on suit Paul, le contraire de la culpabilité, ce serait l'amour. L'amour qui ne fait pas de mal au prochain et qui est comme Paul le désigne comme étant la plénitude ou l'accomplissement de la loi. Alors le mal commis pourrait être peut-être un peu cartographié très grossièrement comme suit. Il y a le fait de faire mal, donc ce mal qui suscite la culpabilité, hein, le fait de faire mal, qui peut parfois être relativement anodin, le médecin doit bien faire mal, hein, parfois, mais qui relève trop souvent de l'inattention à l'autre. Pensez à tout ce que sont ces péchés par omission. Il y a un stade peut-être plus grave qui est faire du mal, lorsqu'il y a plus de malice, d'intention, de volonté marquée dans l'acte ou dans la pensée. Là, ce sera plutôt dans l'acte. Il y a un troisième, je ne sais pas si c'est un stade, ou en tout cas un troisième aspect, qui serait mal faire. Mal faire, qui ça concerne plutôt l'ordre des choses, hein, l'ordre du monde, qui toucherait tout ce qui est de l'ordre de la négligence dans ce qui, en l'homme, devrait susciter de l'attention et du zèle. Et enfin, il y a cette expression « faire le mal », hein, où l'on se rapproche plus d'une conscience totalement dévoyée et consentante au mal. Le péché est, donc je le disais tout à l'heure, premièrement péché contre Dieu, l'auteur de la loi. Il est fondamentalement mal comme injustice, hein, le terme grec c'est adikia, comme iniquité, anomia, donc adikia c'est injustice, anomia, hostilité à la loi. Mais il peut se manifester, donc il est contre Dieu, mais il peut se manifester, et se manifeste souvent, dans le péché contre le frère, contre la sœur, en humanité. Et les données bibliques montrent que le péché crée, suscite, une dette objective. Hein ? La dette, c'est un des mots que le Nouveau Testament utilise pour parler du péché. Et il expose à une peine, à une sanction. C'est l'aspect, on pourrait dire, un peu objectif de la culpabilité. La culpabilité touche la conscience qui en est affectée. Elle suscite justement un sentiment de culpabilité qui a été souvent décrié par la psychanalyse. Et c'est vrai que ce sentiment peut être malade ou sans objet. Il peut atteindre dramatiquement la victime même du péché. On ne doit jamais l'oublier. Et quand l'homme n'a plus de conscience, quand il a totalement éteint sa conscience, il est alors devenu totalement insensible, c'est l'impie, le sans-loi. Alors il y a là, dans la culpabilité, un thème important et incontournable du texte biblique, l'homme pécheur. Il dit dans l'Ancien Testament, il porte son péché, hein. Il doit en porter la peine. Et il est du coup sous le coup de l'accusation et de l'accusateur. Précisément, Jésus est présenté par Jean dans sa première épître comme l'avocat, celui qui plaide pour le pécheur qui confesse sa faute. Et il peut le faire lui-même au titre d'une dette qu'il a payée, au titre d'une peine qu'il a subie pour le péché, ce péché qu'il a porté, enlevé en tant qu'agneau de Dieu, faisant l'expiation pour les péchés, le péché de son peuple. Alors vous aurez peut-être noté, là aussi très, très rapidement, il pourrait y avoir un écho entre ces trois dimensions du péché et les grandes, les principaux schémas qui tentent de rendre compte de l'œuvre de Christ. Hein. On a le schéma de l'expiation pénale, hein, la peine du péché subie à la place du peuple pécheur. On a la victoire de Christ sur les puissances, sur le péché, sur la mort. Et on a aussi le schéma de la satisfaction, hein, de l'honneur offensé de Dieu. Alors, il faudrait développer, mais je vous glisse aussi simplement cette pensée au passage.
Cette prolifération du péché dans toutes les dimensions humaines conduit à un asservissement, un esclavage. L'homme ne naît pas libre, il naît esclave. Ce qui se traduit de façon diverse, un asservissement au désir. Hein. Le péché a pour effet le retournement de l'homme vers et en lui-même, orienté vers lui-même, vers sa propre satisfaction, et non plus vers la satisfaction en Dieu. L'asservissement est aussi asservissement au péché et même au diable. L'homme est non seulement asservi à quelque chose de plus fort que lui, le péché, le désir en lui, le péché garde toujours cette dimension aussi de l'intervention d'une puissance extérieure d'asservissement dont l'homme seul ne peut s'extraire. L'homme est esclave du péché et même du diable. Il marche selon le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2, selon le prince de ce monde. Et c'est d'ailleurs cet esclavage qui peut expliquer l'usage abondant dans le Nouveau Testament du terme péché, hamartia, hein, en grec, qui n'était pas aussi fort que le terme adikia, utilisé dans la littérature classique, le mal profond de l'injustice. Il y a cette dimension d'esclavage qui intervient. Alors, à part Jésus, aucun homme n'est exempt du péché, qu'il se manifeste de façon évidente ou discrète. Tous les hommes ont péché, on rappelle Romains 3:23, et tous ont besoin de salut. Tous les hommes ont péché, et le péché affecte, on l'a vu, la structure relationnelle. C'est vrai pour chaque personne au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau de l'unité plus collective, hein, cible particulièrement marquée par les prophètes de l'Ancien Testament. L'injustice juridique, l'injustice sociale, l'injustice économique. Nos cultures, nos institutions sont habitées par l'injustice et par le péché. Et les structures humaines, y compris celles qui sont destinées à réguler l'activité humaine, à limiter le mal, elles sont elles-mêmes affectées par le péché, un péché qui peut prendre du coup un habillage de normalité, voire de vertu. L'Écriture, à ce titre, il me semble, ouvre aussi d'ailleurs la possibilité d'un prolongement du discernement. Je le dis rapidement, mais il a fallu bien des années pour discerner dans l'esclavage quelque chose de fondamentalement contraire à la volonté de Dieu. La prise de conscience, peut-être récente, outre-Atlantique, des éléments de racisme entretenus et transmis, même au sein du peuple chrétien, est parfois délicat. C'est un processus, une prise de conscience difficile, douloureuse, parfois conflictuelle. Et donc, le concept biblique de péché doit intégrer la dimension collective et la redevabilité collective du péché. Elle n'enlève pas à l'individu sa responsabilité, mais elle se situe aussi, en même temps, dans sa dimension collective, dont il est vrai que l'anthropologie contemporaine, plus individualiste, peine à rendre compte. Il y a dans l'Écriture de Sodome en Genèse à Babylone en Apocalypse un poids, une réalité collective du péché qui n'exonère pas chaque individu de sa responsabilité, mais qui s'y articule et qui semble avoir une certaine réalité. L'être humain est complexe et c'est dans toute sa complexité qu'il est affecté par le péché. Toutes les dimensions de l'être humain sont affectées. Le péché n'est pas forcément facilement localisable. Il vient du cœur, nous dit Jésus, et s'il se manifeste par un acte ou une omission, hein, c'est les péchés au pluriel, il se situe aussi dans une forme de causalité circulaire entre nos pensées, nos actes, nos dispositions, hein, et les modalités même de prolifération du péché dans l'homme sont complexes. L'homme est un être tout à fait particulier par sa nature, je le disais, il a ce qu'on appelle une volonté. Alors, il ne faut pas comprendre la volonté forcément comme la possibilité de faire ce qu'on veut, comme ce qu'on appelle parfois une liberté d'indifférence. On sait que beaucoup de facteurs interviennent dans le choix d'un homme ou d'une femme. Mais ce que l'homme fait, il le fait en jeu, à la première personne. C'est ainsi qu'il en est responsable, sans pour autant pouvoir lui-même toujours totalement maîtriser ce qu'il veut. L'homme agit bien selon ce qu'il veut, mais ce vouloir même est affecté par le péché, par la pliure de l'être qui le retourne aisément contre Dieu. La liberté renvoie alors simplement à la possibilité que l'homme a d'agir sans contrainte, sans forcément pouvoir vouloir ce que l'on veut. Les facultés noétiques, intellectuelles, sont également touchées par le péché. La faculté raisonnante de l'homme n'est pas un mécanisme resté intact, en particulier, bien évidemment, en ce qui concerne les questions spirituelles, dans la constitution de connaissances ou de croyances concernant Dieu, touchant la religion, la morale, l'éthique. Cette faculté n'est d'ailleurs de loin pas indépendante des autres facultés, des facultés volitives ou affectives. Et le fait que, par ailleurs, le monde puisse lui-même être affecté par un désordre en conséquence de la chute a pu être souligné comme une difficulté supplémentaire, comme un accélérateur peut-être dans la difficulté du développement d'une connaissance du monde. Nos facultés affectives, qui nous caractérisent, sont elles-mêmes touchées par les péchés. Nos sentiments, nos désirs n'en sont pas indemnes. On pourrait rajouter d'autres facultés, comme la faculté créative de l'homme dans son développement artistique. On essaye d'imaginer, par exemple, ce que pourrait être la littérature sans le péché. Les bibliothèques, je pense, maigriraient considérablement. Alors, le péché constitue donc véritablement la condition de vie de l'homme. Tous ont péché, disait Paul. Le péché est toujours contre Dieu et en cela, c'est forcément un concept théologique. Et donc si toutes nos facultés sont plus ou moins atteintes, une conscience claire ou relativement claire du péché nécessite aussi une connaissance de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que une réelle connaissance du péché n'est possible que pour celui qui connaît Dieu, pour le croyant. Alors ceci étant, même s'il nécessite la révélation de Dieu, l'être humain peut en avoir une première intuition. On l'a vu. Il peut être orienté par un regard aiguisé sur la création, par des éléments de religiosité également, qui soulignent que quelque chose ne va pas dans l'existence telle qu'elle est. Tout cela appuyé, bien sûr, sur cette loi immémoriale d'origine créationnelle dont l'homme peut avoir encore quelques traces. Mais c'est bien dans la loi de Dieu, et donc par une révélation spéciale, que Paul discerne la possibilité d'approcher la question du péché. Ce ne sont pas simplement des lois dans leur objet particulier, circonstanciel, contextuel, lié à une culture. Mais c'est bien son caractère pédagogique qui renvoie l'homme à l'échec, à la réalité multiforme de son péché comme atteinte de Dieu. Alors le péché et la mort existait bien avant la loi, mais c'est elle qui le révèle comme péché, dans son hostilité fondamentale à Dieu, comme puissance d'asservissement et de destruction, les deux aspects. Mais cette loi ne renvoie pas seulement l'homme à l'échec dans sa capacité à se conformer à la volonté de Dieu, elle pointe un bien, que Paul, je le disais tout à l'heure, associe à l'amour pur et simple, le véritable amour, pas le simple sentiment, l'amour pur et simple comme amour, comme don de soi. Et Jésus interprète d'ailleurs bien souvent la loi en renvoyant à l'intention du Créateur, c'est particulièrement évident dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, en renvoyant à cette intention d'une justice plus grande, une justice plus grande qui peut se rapprocher indéniablement de la démarche de l'amour. Il n'y a néanmoins pas que la loi qui renvoie au péché. On pense à toute la littérature de sagesse qui en parle peut-être plus indirectement par l'opposition entre sagesse et folie. La sagesse cherche à discerner le comportement conforme à l'ordre établi par Dieu, tout en tenant compte de la réalité d'une harmonie perturbée par le mal. Et cette littérature offre des recommandations, proverbe, hein, mais aussi des réflexions, des énigmes pour apprendre à naviguer dans un tel monde avec la crainte de Dieu. Et en écho, Paul, dans les pastorales, utilise aussi un langage que les auteurs païens, moralistes, n'auraient pas forcément renié. Et il s'agit bien sûr de ne pas créer de scandale inutile pour le païen, mais cela montre aussi la correspondance nécessaire entre la foi chrétienne et une piété qui a aussi ses dimensions de pondération, de sagesse, de recherche de conformité à l'ordre des choses. Je le disais, la loi révélatrice du péché, indicatrice du bien, ne recouvre pas tout ce qui relève du péché. Il doit aussi faire référence à la conscience, hein, un peu dans la ligne de Romains 14, ce baromètre intérieur particulièrement important pour le croyant. La conscience n'est certes pas infaillible, elle est touchée par le péché, son pouvoir de discernement est donc fortement lié à la parole de Dieu dont elle se nourrit et très lié à la vie de foi, de piété dans laquelle elle s'inscrit. Néanmoins, il me semble que les propos de Paul invitent à discerner les choses, à un discernement du péché qui, au-delà de la loi, s'opère en contexte, en tenant compte de la présence de l'esprit, de ses convictions propres et de la situation dans laquelle le croyant se trouve. Si le péché mine tous les aspects de la vie humaine, et si tout péché est mauvais, tous les péchés ne sont pas également mauvais. Certains sont plus graves par leurs conséquences, par l'intensité nocive qu'ils portent, et l'Écriture indique cette pondération. Il faut ajouter à ce fait que certains péchés sont faits par erreur, Lévitique 4, nombre 15, ou par ignorance, ils peuvent être involontaires, ce qui n'exclut pas pour autant la responsabilité du pécheur, mais ça nuance ça, la dimension de culpabilité. Il faudrait encore évidemment ajouter le degré variable de liberté dans l'acte pécheur et l'importance des conditionnements dans lesquels il se trouve. Et ces éléments peuvent ou devraient, me semble-t-il, rappeler aux croyants que le péché et la culpabilité en particulier ne relèvent pas d'une mesure, d'une comptabilité, d'une évaluation scrupuleuse, mais d'un discernement, d'un déchiffrage, d'une lucidité en vue d'une confession. Enfin, je voulais terminer par là, Dieu ne laisse pas le péché se répandre et ne livre pas l'homme à la puissance du péché sans intervenir. Il offre bien sûr sa grâce salvatrice en Jésus-Christ, mais il offre aussi sa grâce providentielle dans le cours du monde. Il freine le péché, lui fixe des limites qui permettent que ce monde soit encore vivable et par bien des aspects beau et bon. Le premier aspect de cette réalité-là, c'est la providence. Dieu préserve le monde qu'il a créé. Il donne la pluie et le beau temps, dit Jésus, à tous. C'est ce qu'on appelle la conservatio en théologie classique. Il intervient aussi mystérieusement dans le monde qu'il a créé, souvent de manière indirecte, que ce soit par des causes secondes ou en intervenant dans les effets des causes. Il ne permet pas que le mal se déploie dans toute sa puissance. Enfin, il gouverne souverainement le monde, y compris le mal, qu'il peut utiliser souverainement, mystérieusement, pour faire advenir du bien. C'est la fameuse exclamation de Joseph en Genèse 50, 20. Le second thème important, l'aspect de cette réalité, c'est la grâce commune, qui implique une action peut-être plus spécifique de Dieu, une action sur les non-croyants, pour faire advenir du bien dans ce monde. Là, on pourrait par exemple se référer aux éléments intégrés à l'Ancien Testament et qui ne proviennent pas forcément de gens qui avaient la connaissance de Dieu. Certains textes des Proverbes, intégrés dans les Proverbes, qui viennent visiblement d'une littérature de la région. Apocalypse 21, les dernières pages de la Bible, laissent entendre que toutes les richesses, tout ce qu'il y a de bon dans les nations, a vocation à être apporté, en quelque sorte en pillage de guerre, dans la nouvelle Jérusalem. Et je tenais à finir cet exposé par cette pensée que le péché, dans toute son étendue dramatique, tragique, non seulement n'aura pas le dernier mot par Jésus-Christ, mais reste aujourd'hui sous contrôle, sous le contrôle d'un Dieu bon. Un Dieu bon qui, s'il rétribue effectivement le mal dans sa justice, est aussi le Dieu qui fait grâce dans une miséricorde qui précisément habite sa justice, nous invitant, nous aussi, dans notre effort de lucidité sur le péché, à être de ceux qui font grâce et exercent la miséricorde. Je vous remercie.